Vraie ville PM. Politique.
Par un vote aux deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, nous allons donc ajouter le directeur général de la Sûreté du Québec, le prochain commissaire de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, et le prochain directeur des poursuites criminelles et pénales à cette liste.
Pour chaque poste à combler, notre gouvernement entend soumettre à l'ensemble des formations politiques plusieurs candidatures au lieu d'une seule, parmi lesquelles nous pourrons tous nous entendre.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, on commence notre semaine politique donc avec Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut.
Carl Bélanger, consultant communication, ex-stratège politique. Bonjour Carl.
Bonjour.
Paul, on vient d'entendre le député Simon Jolin Barrette de la CAQ donc, qui nous dit que sous un gouvernement caquiste, un certain nombre de postes importants seront désignés aux deux tiers des votes de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu es heureux de ça?
Je commencerai par dire que je suis surpris. Ben, il y a pas mal d'affaires qui ont été dites ce matin. C'est pas ce qui était dit en campagne électorale. Ben, il y a les nominations de chef de police puis les nominations partisanes.
Oui, mais les nominations de chef de police, ça avait été dit.
Oui, ça avait été dit. Okay. Avec une nuance, par contre. Monsieur Legault, je pense que c'était autour de la fête du travail, avait dit les chefs de police seront réévalués. Il parlait du commissaire de l'UPAC, SQ. SPVM. Là, on lui a demandé ce matin, mais on a demandé ce matin à M. Jolin Barrette, est-ce qu'ils seront encore réévalués? Puis c'était plus dans les cartons, évidemment, parce que Robert Lafrenière va quitter l'UPAC d'ici un mois, mais il reste quand même le patron de la SQ, qui est intérimaire aussi patron du SPVM. Lui, ça a l'air qu'on ne le réévaluera pas, mais pour les futures nominations de chef de police, à commencer par celle de l'UPAC, qui va venir bientôt, là, ben on demandera une nomination aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Sur cet aspect, pas une surprise, pas nouveau. Au contraire, ça fait longtemps que la CAQ et le PQ le demande.
Oui. Alors, UPAC, Sûreté du Québec,
DPCP.
Police de Montréal?
La police de Montréal, clair, là, encore une fois, c'est comme si depuis que la CAQ prend le pouvoir et réalise là, la complexité et certaines nuances qui leur échappaient dans l'opposition, c'est parce que le chef de police de la SPVM, il est nommé par la ville de Montréal ce choix est par la suite entériné par le gouvernement du Québec. Fait que c'est pas le gouvernement, puis encore moins l'Assemblée nationale qui va imposer son choix à la ville de Montréal. Là, ils ont enfin fait cette nuance-là et c'est pour ça qu'ils parlent plus du SPVM.
OK. Par contre, tu ajoutes que...
Ben, pour les nominations aux deux tiers, moi, je commencerai par dire qu'avec la très forte majorité que la CAQ a obtenue, ils ont seulement besoin de l'appui d'un parti de l'opposition. Ça peut être juste QS, PQ ou libéraux. Puis moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup idéalisé les nominations aux deux tiers et démonisé les anciens modes de nomination en faisant comme si la nomination, par exemple, du chef de l'UPAC, c'était discrétionnaire. C'est un choix du gouvernement, puis on ne savait pas s'il était indépendant. Je rappellerai autant que pour le DPCP, c'est-à-dire le directeur des poursuites criminelles et pénales, et que pour l'UPAC, le mode de nomination actuel est celui qui avait été recommandé par la commission Charbonneau. En gros, c'est quoi? C'est un comité d'experts indépendants. Puis on estimait que ça suffisait, puis que le gros risque pour l'indépendance d'un chef de police, c'est la façon dont tu le dégommes. Parce que si tu as un changement de gouvernement, il peut avoir les fesses serrées pour craindre qu'il perde sa job. Ouais. L'autre risque, c'est si son mandat est renouvelable. Puis on l'a vu avec Robert Lafrenière, il est en train de se négocier un renouvellement de mandat en enquêtant sur des anciens membres du gouvernement en place. Ça fait que ça le plaçait dans un conflit d'intérêts. Tous ces risques-là ont été évités par le mode de nomination actuel. Si la CAQ décide de maintenir le comité indépendant, il dresse une liste courte, puis le présente à l'opposition, ça me dérange pas trop. Tant qu'on réussit à gérer un autre risque, celui du marchandage en coulisses. On l'a vu, des fois, les partis ils essayent de faire accepter une nomination aux deux tiers, ils s'ostinent, puis ça ralentit indûment une nomination. On l'a vu avec le vérificateur général, où il y a un intérim longtemps, parce qu'il y avait une guéguerre entre les partis.
Mais il y avait une guéguerre entre les partis, présumément, parce qu'il y avait une raison d'avoir une guéguerre, c'est-à-dire que l'opposition ou un des partis d'opposition jugeait que c'était la bonne vieille filière libérale qui s'exprimait, non?
Oui, on fera pas l'histoire là, de ça, mais oui, l'opposition avait ses problèmes avec ça. Puis je dirais que, inversement, c'est pas parce que quelqu'un est nommé aux deux tiers qu'il y a une garantie d'indépendance ou de compétence. Le meilleur exemple, Bernard, c'est la Commission des droits de la personne. Tamara Termitus. On sait à quel point ça a été horrible et très rapidement horrible, son
mandat.
Elle a été nommée aux deux tiers. Donc, bref, pour conclure, je dis pas que la nomination aux deux tiers, c'est forcément mauvais. Au contraire, ça peut être bien. Je dis juste, ne l'idéalisons pas trop vite et assurons-nous de maintenir le comité indépendant qui nous dresse une liste de courtes à partir de laquelle choisir. Puis dans ce cas-là, je pense que la proposition de la CAQ sera bien raisonnable.
Mais ce que tu nous dis, c'est que... Attends, ça s'en vient, Carl. Ce que tu nous dis, c'est que ce matin, dans les propos qu'il a tenus, le député caquiste Jolin Barrette n'a pas réaffirmé que le fameux comité continuerait? Que le comité indépendant
J'en déduis rien. Là, peut-être qu'il prenait pour acquis. Là, il n'a pas dit qu'il tirait la plug sur le comité. Là.
D'après moi, il le maintient.
Non, c'est ça.
D'après
moi, il le maintient. Tout à fait. Mais quand même, c'est bien de répéter.
Un comité indépendant donc qui soumettrait trois candidatures et l'une de ces trois-là serait votée aux deux tiers par
mais la CAQ présenterait dit qu'elle présenterait plusieurs candidats aux autres partis. Donc il sortirait pas un nom en disant au parti est-ce que vous êtes d'accord et s'ils sont pas d'accord t'en présentes un autre.
Proposerait les trois peut-être.
Il proposerait les trois ou deux, on n'est pas été dans ce niveau de détail mais c'est une possibilité.
Carl, vas-y donc.
Et dans le deux tiers et sur le... La question du deux tiers, ben, premièrement, c'est mieux que 50% plus un. On va s'entendre là-dessus. Puis je pense que c'est aussi mieux que l'unanimité parce que tu veux pas donner de veto à aucun des partis sur une nomination comme ça. Cependant, faut considérer que si tu laisses ça seulement dans les mains du gouvernement, ben, il y a une légitimité que tu n'as pas. Alors, en amenant un autre parti d'opposition, puis là, ben, évidemment, on pourrait entrer dans le concept que peut-être qu'un parti pourrait obtenir à lui seul deux tiers des sièges, mais c'est assez rare à l'Assemblée nationale, disons. Je pense que c'est une bonne chose de pas donner de veto à aucun des partis. Parce que, tantôt on parlait de questions légitimes sur un candidat qui serait de la filière libérale, mais ça pourrait être aussi un outil utilisé par un parti pour simplement paralyser les travaux de ce comité-là sur une question ou sur une autre à cause d'un autre dossier. Donc, ça pourrait être une tactique de négociation. Et là-dessus, je suis d'accord avec Paul. On veut pas que ça devienne un outil de négociation.
Un outil de marchandage. Voilà. Très bien. Garde, Paul, on va enchaîner tout de suite avec les signes religieux et la CAQ parce que tu voulais faire court. Et après ça, on va aller à Ottawa après la pause pour parler de ce livre de Stephen Harper qui est, ma foi, intéressant. Petite ouverture de la CAQ, penses-tu?
Oui, que je fasse ce cours, je vais résumer ça en un haïku.
Oui.
Le droit de regard, la CAQ n'a pas fermé la porte.
Le droit acquis, tu veux dire?
Le droit acquis.
Oui.
Merci.
Le droit acquis des personnes qui portent un signe religieux.
Les personnes qui portent déjà un signe religieux dans une position d'autorité coercitive ou morale. On entend surtout parler en ce moment les enseignantes qui portent le voile. Mm-hmm. On a demandé à la Coalition Avenir Québec ce matin, est-ce que les femmes qui portent déjà un voile pourraient bénéficier d'une clause grand-père, pardonner l'anglicisme, d'un droit acquis? Et la CAQ a répété que ce n'était pas sa position, mais qu'elle ne fermait pas la porte, que parfois, il y a des négociations qui peuvent survenir avec l'opposition lorsqu'on veut faire adopter un projet de loi. Mmh. Donc, ils n'ont pas fermé la porte, mais ils l'ont pas entrouverte ben. Puis, écoute, à l'heure des charges, je les comprends, là, il n'y a même pas encore de ministre responsable. Fait que soyons patients quand même. Là.
Et sur le crucifix, est-ce que la question lui a été posée?
Oui, et il a répété que c'était un objet patrimonial, donc qu'il veut laisser au Salon Bleu, ce qui veut dire que la Coalition Avenir Québec veut faire voter une loi sur la laïcité sous un crucifix. Quel beau message contradictoire envoyé aux gens qui portent des signes religieux. Puis encore là, les gens qui portent des signes religieux, soyons clairs, c'est surtout des femmes qui portent le voile.
Oui.
Surtout. Pas seulement, mais surtout.
Oui. Oui. Mais effectivement, sur le crucifix, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Il faut bouger là-dessus. Là. Écoute, j'espérais franchement une autre réponse. J'espérais que tu me dises, ils sont ouverts à en discuter, ça va dépendre de ce que les autres partis vont proposer.
Moi, j'ai l'impression, Bernard, je ne sais même pas s'ils ont le temps d'y réfléchir. Encore une fois, le gouvernement, le Conseil des ministres n'a pas été formé.
Non, mais ça relève du Salon Bleu. Ça, ça relève du...
Ah, pour le crucifix,
pour le crucifix,
dire,
ça relève du législatif, ça.
Oui, mais les députés n'ont pas encore été assermentés. J'espère, juste par souci de cohérence ou d'acceptabilité de leur proposition. Moi, ça me dépasse. C'est un objet patrimonial, rangez-le avec les autres objets historiques dans les corridors de l'Assemblée nationale. On sait, on ne dit pas de le sacrer au vidange.
Non,
on dit de le mettre dans le corridor où il y a les artefacts historiques.
Carl, vite.
Mais c'est ce qui m'étonne dans le dossier, c'est un peu le sentiment de précipitation. Hein, quand Mme Guilbeault est sortie la semaine dernière, comme Paul vient de dire, le gouvernement n'est pas encore formé et on se lance déjà dans ce débat-là, alors qu'il y a tellement de portes à ouvrir et à fermer qu'il y aurait peut-être valu mieux pour eux de prendre un peu de temps.
Oui. Oui, en même temps, ils ont été clairs et puis c'était l'engagement qu'ils avaient pris. Tu sais, s'ils n'avaient pas répondu à la question, parce que c'est en réponse à une question de journaliste que Mme Guilbeault s'est exprimée, et Legault, la journée d'avant, en réponse à un journaliste qui posait une question en anglais. S'ils n'avaient pas répondu comme ils ont répondu, on dirait « Ah ah! » Ils sont en train de prendre des distances avec les engagements qu'ils ont pris. Est-ce qu'on serait en train de les planter pour dire ils ont été élus sur un engagement qu'ils ne respectent pas ou sur lequel il y a un flou artistique? En tout cas.
Moi, j'aurais jamais dit « Ah ah, Bernard, c'est pas mon style. »
Non, t'aurais dit quoi, bébé?
J'aurais eu des propos nuancés avec des adjectifs de bon goût, Bernard.
Mesdames et messieurs, vous connaissez de plus en plus notre ami Paul et son sens de l'humour. Et plus vous le connaissez, plus vous l'appréciez, je n'en doute point. On s'arrête, on revient avec Carl. De retour avec Paul et Carl. Carl, parle-nous donc de Stephen Harper qui lance un livre.
Mais oui, il lance un livre et puis ça s'intitule « Right Here, Right Now ». Alors, je ne sais pas si ça va devenir un classique comme cette merveilleuse chanson de Jesus Jones, mais...
Très déçu, je vais faire le gag, j'ai été devancé.
Ah, mais écoute, je suis plus rapide que toi, je suis désolé, Paul, mais tout le monde devrait savoir que tu es quand même le Claude Larajotte de notre génération. Très érudit au niveau musique, c'est
ça. Ça suffit, Carl, parlons de Stephen Harper.
Écoute, la thèse de Stephen Harper, c'est que le populisme est là pour rester. On a vu des réactions dans le monde récemment, là, mais évidemment, on parle de Donald Trump, une grande proportion d'Américains qui ont voté pour lui parce que ça va pas bien, mais il y a d'autres exemples. Brexit, Macron en France, Doug Ford. Certains pourraient même arguer que François Legault est dans la même mouvance.
Tu mettrais Macron dans la vague des populistes, toi?
Mais c'est que les gens sont tannés et bien sûr, c'est absolument populiste. La campagne En Marche, tout ça, c'était basé sur un mouvement populaire. Les gens sont tannés et réagissent en votant en dehors des patterns traditionnels.
Ah, okay.
Ils votent pour des nouveaux partis, pour des nouveaux courants, pour des nouveaux mouvements, pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui les affectent parce que les vieux partis, donc les courants traditionnels, ça ne fonctionne pas.
Ouais, on pourrait dire populisme et dégagisme.
Certainement, hein, dégagisme.
Paul me le souffle à l'oreille. Dégagisme, donc on dégage les vieux partis traditionnels puis on vote
fait
des
le ménage.
Nouveaux.
On même Québec solidaire, on pourrait mettre là-dedans, tu sais,
ouais,
jusqu'à un certain point.
D'accord.
Donc, le populisme, ça peut être à gauche, ça peut être à droite, mais c'est rarement au centre. Dans le cas de Macron, ça l'est plus, mais c'était un mouvement qui était de rejet envers les vieux partis.
D'accord.
Enfin, un peu dit que ça, c'est la mondialisation un peu qui fonctionne pas, que ça crée beaucoup de problèmes, même parmi les pays qui ont poussé cette vision, puis ça crée des fossés sur plusieurs niveaux. Et là, il appelle ça, lui, les deux catégories de gens, les « somewhere », les « quelque part
oui. »,
et les « anywhere », les « n'importe où
oui. ».
Donc, pour Harper, les « quelque part » sont des gens qui sont attachés à la communauté, à l'église, à la famille, puis les « n'importe où », ben, c'est des cosmopolites qui ont fait des hautes études, qui peuvent et veulent vivre où bon leur semble.
Les « n'importe où », on les appelait les citoyens du monde auparavant.
Ben, c'est ça, c'est la communauté mondiale qui est leur voisinage. Ouais. Hein. Ouais. C'est des gens qui ont une grande perspective et qui sentent à l'aise, qui n'ont pas vraiment besoin de frontières. Tandis que pour les « quelque part », ben, la nation, le nationalisme, le pays d'où on vient, c'est très, très important.
La communauté reste encore importante, on est attaché à... Alors, moi, je vais te dire une chose, je l'ai lu, là, j'ai lu le bout qui a été publié. Carl, moi, j'ai trouvé ça très intéressant sur le constat. Quand il dit... Parce qu'on a tous un peu ce réflexe-là. On regarde Trump aller, puis on se dit, c'est fou comme la M. On a juste hâte aux prochaines élections pour qu'il lève les feutres. Sauf que Harper nous dit, faites attention, parce que vous pourriez être pris avec les Trump de ce monde pas mal plus longtemps que vous le pensez. Et vous serez pris avec si vous comprenez pas les raisons pour lesquelles ils sont là. Il dit pas que Trump est extraordinaire. En fait, il exprime des réserves sur Trump, très importantes.
Oui, oui.
Mais il dit les causes qui amènent des leaders politiques, l'élection de leaders politiques comme Trump, vous pouvez pas juste les balayer sous le tapis puis faire comme si elles existaient pas. Vous pouvez pas nier le fait qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui se considèrent perdants. Dans le mouvement de mondialisation qu'on a connu dans les dernières décennies. Et c'est ces gens-là qui sont perdants, il y a de la rancœur chez eux, il y a de la colère.
Oui,
et c'est
absolument.
eux autres qui, à un moment donné, disent « enough is enough ».
Ouais. Et il dit aussi que la pire réaction, plus que ce que tu dis, c'est d'essayer de convaincre ces gens-là qui ont tort sur leur propre vie, sur leur propre situation. Alors, il dit, faut essayer de comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, puis essayer de réagir ensuite. Le problème, c'est là que la vision de Harper est un peu difficile à jauger avec son constat. C'est que après ça, il va aller dans la nuance. Il dit, les conservateurs doivent demeurer en faveur du libre marché. Or, un des problèmes, c'est la mondialisation. Il dit, le commerce, tout ça, la mondialisation, c'est très bon, mais il faut trouver les accords qui sont bons. Mais est-ce que tu te rappelles d'un gouvernement conservateur qui a refusé un accord commercial? C'est un peu le problème. Il faut être pro-immigration. Or, la plupart de ces mouvements-là, ils ont une base très anti-immigration ou certainement un mouvement pour ralentir ou même stopper dans certains cas l'immigration. Hein, dans le cas de Trump, c'est de bâtir un mur. Alors, comment tu peux concilier les deux? Et là, tu tombes dans la nuance. Et quand tu tombes dans la nuance, c'est plus difficile de contrer un mouvement comme Trump qui n'est pas dans la nuance du tout, au contraire.
Bon point, bon point. Parle-nous vite de Michaël Jean.
D'eau chaude.
Oui, Michaël, l'eau chaude. Jean, elle est sur la voie de sortie comme secrétaire général de la francophonie. Toutes les indications sont à l'effet qu'elle ne sera pas réélue pour un autre mandat de 4 ans.
Ça va pas bien pour sa campagne. Il y a juste Justin Trudeau ou à peu près. Là, il y a Haïti aussi qui font campagne pour elle.
Trudeau ne fait plus campagne pour elle maintenant, je te l'annonce.
Écoute, il a passé quand même plusieurs coups de fil, mais évidemment, il se retrouve devant l'évidence. Puis quand t'as même le premier ministre du Québec, là, François Legault, qui dit, bah, pas vraiment certain qu'on va l'appuyer. Là, il a demandé au conseil exécutif de l'éclairer. Mais écoute, Mélanie Joly, la semaine dernière, défendait encore la candidature de Michaël Jean. Puis écoute bien son explication.
La francophonie a toujours eu une historique de consensus par rapport à sa direction. Et puis, pour nous, c'est important justement d'avoir un leadership du Canada au sein de l'Organisation internationale de la francophonie parce que ça a été la position du gouvernement Trudeau depuis qu'on a été élu. On a voulu réaffirmer le leadership international du Canada et on va toujours se battre pour avoir des Canadiens à la tête de nos organisations.
Oui, je pense qu'elle n'avait pas eu le mémo, là.
Non. Et puis, le consensus
est plus contre Michaël Jean.
Exact.
Voilà, c'est ça.
Écoute, il y a beaucoup de pays africains qui veulent voir quelqu'un du continent à la tête de la francophonie. La candidate qui est en tête de liste, c'est Louise Mushikiwabo, qui est la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui est soutenue, entre autres, par plusieurs pays africains, mais également par le président français Emmanuel Macron.
Voilà. Paul?
Ben, ce serait peut-être le fun que de s'assurer aussi que la future personne à la tête de la francophonie vienne d'une démocratie qui est vraiment démocratique.
Ça, c'est l'argument de Michaël Jean, soit dit en passant, pour dire ça n'a pas de bon sens.
Mais ben que là,
la Rwandaise... Une journée qui prend position aussi.
5 minutes, je vais essayer de contrebalancer ça avec les arguments aussi contre Michaël Jean.
Non,
parce
mais
que
Paul,
là,
il n'y a aucune gêne.
T'es en train de me faire un allié objectif.
Ben oui, tu es un allié objectif de Michaël Jean qui dit que le Rwanda n'est pas une démocratie.
Et d'ailleurs,
ils ont adopté l'anglais comme langue officielle. Et donc, ça n'a pas de bon sens. C'est Michaël qui parle, appuyé par Paul Journet maintenant. Ça n'a pas de bon sens que ce soit la Rwandaise.
Retire
soit
tes propos, Bernard, parce que je n'appuie pas Michaël Jean. Retire tes propos anti-radiophoniques, Bernard.
On se croirait au Parlement. Et c'est toi le président.
De toutes.
Langage non parlementaire. C'est ça?
Je suis juge et arbitre.
Bon, c'est Paul Journet.
J'ai pas eu le deux tiers là-dessus, en tout cas.
Paul Journet, Carl Bélanger, merci. À demain.
Salut.